Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strauch-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous nous penchons sur La République en marche. Puis dans une seconde partie, nous accueillons le professionnel des médias, Éric Brion. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Notre sujet du jour, La République en marche va-t-elle à reculons ?
Eh bien, le 6 avril, on fêtait entre guillemets hein, les 5 ans d'En Marche.
Les 5 ans ?
Oui, 5 ans déjà. ça passe vite, ça pousse vite à cet âge. Donc depuis, c'est devenu La République en marche, alias LREM ou voire LAREM. Donc bref, le parti créé par Emmanuel Macron pour sa candidature à la présidentielle de 2017. Et donc tel est le point de départ de notre discussion du jour. Donc pour ma part, comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, je pense à maintes reprises dans cette émission, je ne suis pas du tout la politique, ça ne m'intéresse pas parce que j'y comprends rien. Donc j'ai donné en fait mon point de vue de simple citoyenne, comme on dit, mais il y a quand même un petit hic, parce que simple citoyenne, certes, mais qui s'est enthousiasmée pour Macron avant de gravement déchanter. Et donc comme tu le sais, je me focalise souvent sur la psychologie, le tempérament des gens, et en fait Macron a eu ma sympathie à cause de son couple. Je me disais qu'un type qui avait réussi pendant si longtemps en fait à mener une vie conjugale aussi hors norme pouvait être assez solide pour être président. Parce qu'en fait, c'est globalement en fait ce que je reprochais aux présidents précédents comme Sarkozy ou Hollande, que je trouvais trop fragile par rapport à l'opinion, notamment grâce à Valérie Trierweiler, que Hollande était complètement obsédé par les sondages et tout, donc je m'étais dit voilà, que quelqu'un comme Macron, qui avait déjà ce potentiel-là de résistance face à l'opinion, c'était quand même pas mal pour être président. Et aussi, j'ai complètement gobé toute la propagande pré-présidentielle qu'il y a eu, et notamment, je me rappelle d'un documentaire qui était sorti dans Envoyé spécial, je crois, où c'était voilà, Macron intime, un truc dans le genre, et il y avait une vidéo de son mariage, et ce qui m'avait titillé, c'est qu'à un moment, donc il y a le discours de son mariage, et il part dans un laïus sur la normalité, qu'est-ce qui est normal, genre de truc, et ça m'avait fait marrer, parce que voilà, tu demandes à n'importe quel membre de ma famille, c'est un truc, le délire, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que la normalité, c'est un truc voilà, que je répète quasiment depuis que je sais parler. Mais quand même, au moment de faire mon choix au premier tour, de la présidentielle, même si Macron arrivait avec un capital de sympathie, j'ai quand même fait, comme la grande rationnelle que je me pique d'être, en fait, que j'ai fait ce que je fais toujours. Je m'assois dans ma cuisine, je prends les programmes, d'un côté et de l'autre, j'ai une feuille blanche, je les lis, dès que je vois un truc qui me plaît, je mets un point positif, un truc qui me plaît pas, je mets un truc négatif, et j'ai même des points veto, c'est-à-dire des points négatifs qui comptent triple. Et après, je fais les comptes, et comme par miracle, Macron est arrivé premier. Et notamment, ce qui m'avait plu, c'était sa volonté transpartisane, son accent mis sur l'Europe, et plus que tout, c'était le volet technocratique. Alors là pour le coup, c'est peut-être là un des trucs qui fait que je ne suis pas du tout normale, statistiquement parlant, c'est que voilà, moi j'adorais ça, qu'ils disent qu'il allait se fonder sur la science, sur les experts pour décider, je trouvais ça super. Et c'est même allé plus loin, parce qu'après avoir voté pour lui, entre guillemets, rationnellement au premier tour, je me suis noyée dans mon enthousiasme en devant un membre d'En Marche entre les deux tours. et là, en fait, l'un des premiers trucs qui m'a motivée, c'est que c'était gratuit. Et c'est drôle, parce qu'il y a 5 ans, et aujourd'hui encore, la REM se targue de leur nombre d'adhérents. Mais en fait, pour avoir vu, de mes yeux vus, comme on dit, le processus d'adhésion, en fait, c'est encore plus rapide et indolore que, je ne sais pas, les newsletters auxquels tu t'abonnes sans faire exprès sur un site marchand. Mais vraiment, en fait, de mon souvenir, c'est tu cliques, limite déjà là, genre, bon, bah, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et hop, c'est bon, t'es adhérent, quoi. Donc, c'est un peu facile.
Sans avoir besoin d'aller à un rendez-vous concret.
Non, ouais, c'est genre, hop, c'est tout est virtuel. Et l'autre motivation qui m'avait décidé à être adhérente, donc là c'est encore une blague encore plus grosse, c'est que je m'étais même dit que j'allais aller justement à des réunions, voir à quoi ça ressemblait et tout. Donc là c'est un truc, j'ai souvent des petites envies de faire des trucs que je n'ai jamais fait et qui même a priori me débectent. Donc là en l'occurrence c'est en plus de voir des gens, c'est de voir des gens dans un cadre de réunion politique. Donc ça doit venir, je pense, de mon score d'ouverture à l'expérience qui est très élevé. Mais bon, comme j'ai aussi un score de flemme très élevé, donc voilà, ça c'est resté un fantasme. Je n'ai jamais donné suite. Et le fait est qu'en fait j'ai déchanté en fait quasiment dès le lendemain de la présidentielle. Et mes deux plus gros coups, ça a été Notre-Dame-des-Landes et le dossier du glyphosate. Et je pense que le Notre-Dame-des-Landes, c'était vraiment le pire, hein, parce que là, il y a vraiment eu un déni de démocratie. Les habitants s'étaient décidés pour l'aéroport à 55%. Et là, contrairement à ce que je pensais, contrairement à sa résistance face à l'opinion, Macron a complètement plié sous les pressions de quatre crasseux qui dorment dans des sacs poubelles. J'ai eu un regain d'ascenseur émotionnel vers le haut avec le déremboursement de l'homéopathie. Et je trouvais aussi que voilà, aujourd'hui, on dit souvent qu'il n'y a pas de personnalités qui ont émergé dans Marche et tout. Et je trouvais justement que Buzyn était un peu ce genre de personnalité. Mais en fait, non, rebelote. J'ai déchanté avec le délire des municipales et l'affaire Griveaux et tout les Salam Alek qu'il y a eu avec la pandémie, etc. Donc, pour résumer, sur mon désenchantement que j'ai eu par rapport à la Macronie, c'est que voilà, on nous promettait un truc très rationnel, très libéral, et puis voilà, finalement, on se retrouve avec une énième néo-monarchie ultra-bureaucratique. Et voilà, je trouve que c'est une boucherie. C'était une boucherie avant la pandémie, mais là, ça a vraiment été le coup de grâce avec la pandémie. Et pour finir, en fait, en préparant cette émission, j'ai vu que d'ici à la présidentielle, la REM entendait se renouveler en incitant ses militants à s'engager pour diverses causes, et notamment l'interdiction de la corrida. Et c'est assez rigolo parce que j'ai justement l'impression qu'avec la REM, j'ai vraiment le sentiment qu'on arrive à une fin de corrida. Donc je ne sais pas qui incarne le taureau épuisé et exsangue. Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est la REM? Est-ce que c'est la France? Mais bon, quitte à se renouveler, je me dis qu'un abrégement des souffrances, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée.
Mais tu n'aimes pas la corrida en fait?
Je n'ai pas d'avis.
Tu n'as pas d'avis? Ah non, mais alors, moi, j'aime beaucoup la corrida et apprendre maintenant qu'ils vont se mobiliser contre, ça rajoute encore un point dans ma colonne négative qui est déjà très chargée parce qu'en fait, contrairement à toi, moi, j'ai tout de suite eu beaucoup de méfiance à l'égard de la candidature d'Emmanuel Macron, de sa personnalité, mais aussi de son programme qui, certes, était assez satisfaisant sur un certain nombre de points, notamment sur les questions économiques, hein, à mon sens, mais qui n'allait pas très loin et me semblait déjà ne pas toucher à un certain nombre de problèmes qui sont quand même fondamentaux en France. Je pensais notamment à l'éducation où il n'a pas fait grand-chose. Mais là, je parle du candidat. Ce qui m'a surtout gênée le plus, en fait, chez le candidat, c'était son discours. Et je suis surprise parce qu'on dit très souvent qu'Emmanuel Macron écrit et parle très bien, qu'il a un style très fleuri, même poétique à certains moments. Et en fait, j'ai toujours trouvé que son style n'était pas clair. C'est-à-dire que quand on l'écoutait attentivement pendant la campagne, qu'on écoutait notamment ses discours dans les grands meetings, et bien souvent, il ne terminait pas ses phrases. Ou bien il employait des mots complètement incongrus. J'avais remarqué une expression qui l'obsédait, qui est « quelque chose m'a fait » ou « quelque chose t'a fait ». Je trouvais ça complètement étrange. Un jour, il avait fait un discours sur le travail et il disait à quelqu'un de l'assistance, peut-être un de ses proches, « Oui, Jean-Michel ou Jean-Claude ou je ne sais plus qui, le travail t'a fait ». Et je ne sais pas pourquoi il employait tout le temps cette expression et ça me semblait vraiment une sorte de signe que c'était quelqu'un d'un peu flou. Alors, tu pourrais me dire, c'est anecdotique, c'est peut-être un tic de langage, on ne peut pas juger les gens sur leur emploi de la langue, mais pour quelqu'un qui se targue de devenir président de la République et surtout d'être très intelligent, le fait de ne pas parler précisément et clairement est quand même le signe qu'il y a des ambiguïtés. Et d'ailleurs, toute la suite, et notamment son mandat, est venu confirmer cette idée qu'il est toujours dans l'ambiguïté. Ce qu'on a appelé le « en même temps », assez justement quand même, c'est cette tentative de vouloir à chaque fois ménager la chèvre et le chou et finalement de ne contenter personne. Et pour revenir à son, alors plutôt au niveau des idées, à son libéralisme, en fait, comme je disais tout à l'heure, je l'ai toujours trouvé incomplet et aussi un petit peu naïf, c'est-à-dire que pour lui, le libéralisme, c'est essentiellement l'émancipation individuelle. C'est un terme qu'il employait en permanence. Et il employait aussi une expression que je trouvais totalement affreuse, qui est l'assignation à résidence. Donc il voulait lutter contre l'assignation à résidence. L'ironie étant que quelques années plus tard, en fait, il est le président de l'assignation à résidence du confinement, mais bon, ça, il ne pouvait pas le prévoir. Et c'est présenter le libéralisme comme simplement la réalisation des désirs individuels et en particulier du désir d'émancipation, c'est en avoir une vision extrêmement restreinte, parce que le libéralisme, c'est bien autre chose que ça. Au plan économique, alors on voit à peu près ce que c'est. Il avait d'ailleurs prévu de mettre en œuvre un certain nombre de réformes libérales, mais c'est aussi le libéralisme politique. Et sur ce plan-là, il n'y avait absolument rien dans son programme qui allait dans ce sens, c'est-à-dire celui d'une réflexion sur l'équilibre des pouvoirs, les institutions, pourquoi pas le fait de donner plus d'importance au Parlement, parce qu'on sait très bien en France qu'on pêche vraiment par un pouvoir exécutif qui a beaucoup trop d'importance. Alors ça, c'est, disons, le Macron de la campagne, le candidat, parce que toi, tu parlais du candidat qui t'avait séduite. Et puis ensuite, il y a le Macron président. Et alors là, c'est encore pire, parce qu'au niveau économique, il a fait quelques réformes, mais franchement, il n'est pas allé très loin. Et là, moi, où je suis assez déçue, c'est sur tout ce qu'on pourrait faire pour les entrepreneurs. Je pensais que c'est quelqu'un qui allait vraiment essayer d'aider les Français et ceux qui le souhaitent à monter leur entreprise sans être écrasés par la bureaucratie comme on l'est aujourd'hui. Je pensais aussi au niveau du marché du travail que c'est quelqu'un qui irait beaucoup plus loin dans la libéralisation du marché du travail, parce qu'on sait que les restrictions du marché du travail elles nuisent en premier lieu aux personnes les moins qualifiées, ou aux jeunes, ou aux personnes qui ont, pour une raison ou pour une autre, des difficultés à rentrer sur le marché du travail. Et donc là, sur ce point, grosse déception, et on peut dire ça même avant la pandémie. C'était déjà le cas bien avant que cette crise sanitaire se déclare. Et ensuite, sur le plan politique, comme tu l'as très bien dit, Peggy, ce à quoi on a assisté, c'est absolument pas à une dispersion des pouvoirs, mais à une ultra-concentration, une forme de césarisme technocratique assez intolérant, parce qu'en plus, c'est du césarisme qui se fait au nom de l'expertise. Ce qui a d'ailleurs été très mal vécu, puisque, il faut quand même le rappeler, pour moi, la plus grande crise du premier mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'il risque certainement d'en faire un second, c'est la crise des Gilets jaunes.
Oui, totalement. Enfin, les Gilets jaunes, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier avec l'arrivée de la pandémie, mais c'est quand même un truc énorme, une des crises historiques les plus graves, et pour le coup, pas grave dans le sens, je mets pas de notion morale là-dedans, mais vraiment importante depuis quand même très très longtemps, et qui sans doute a été suscité, voilà, comme tu dis, par cette concentration des pouvoirs, ce césarisme très, très arrogant, qui dit « oui, on sait pour vous », etc. Et ça a été un manque de psychologie politique qui est « on n'impose pas les choses aux gens en leur disant avec un sourire en coin « vous êtes trop cons et je vais vous expliquer la vie ». Cette crise des Gilets jaunes, effectivement, elle a été effacée par la pandémie, mais je parie quand même très très fort que quand la pandémie s'atténuera, parce que les pandémies s'atténuent toujours, il va y avoir un vilain retour du refoulé, quoi.
Pour continuer sur cette idée de, disons, de césarisme technocratique ou par l'expertise, en fait, je lisais récemment un ouvrage du politologue Alain Gérard Slama, qui est paru en 1993, donc ça ne nous rajeunit pas, et qui s'appelle « L'angélisme exterminateur ». Et y a toute une réflexion dans ce livre, hein, entre autres choses, sur la question du centrisme et la façon dont le centrisme gagne de plus en plus d'importance dans le paysage politique français. Je voudrais lire un extrait de ce livre qui, à mon avis, illustre tout à fait ce que représente La République en marche. Donc, Slama écrit « Le centrisme a gagné un courant de plus en plus puissant de l'opinion, a commencé par une partie non négligeable des intellectuels, séduit par ses dissertations brillantes sur la complexité. Ce centrisme moderniste n'a d'autre ambition que de rationaliser la vie politique et de permettre à la société civile de gérer ses conflits. Son idéal est un pluralisme organisé. Mais le fait est qu'en ne concevant pas le pluralisme sur un autre mode que consensuel, et en substituant l'opposition extrémiste modérée à l'ancienne dichotomie droite-gauche, cette sensibilité, que nous avions baptisée naguère l'extrême-centre, rejette en fait tout ce qui n'est pas elle. Et plus loin, le principal résultat de cette radicalisation des modérés est en fait un débat politique encore plus réducteur, voire l'aggravation des tensions. La majorité consensuelle dicte sa norme et il suffit que quiconque semble suspect de s'en écarter pour être soit identifié aux extrêmes, soit, dans le meilleur des cas, considéré comme inaudible, en toute hypothèse rejeté dans les ténèbres du négatif. » Alors voilà, en lisant ces phrases, je me suis dit que Slama était quand même assez visionnaire. Parce que à l'époque, hein, dans les années 90, on voyait des signes, hein, de cette position-là, mais elle ne représentait pas encore un vrai parti. Et en fait, quelques années plus tard, nous y sommes. Nous y sommes vraiment. Et je trouve notamment le fait qu'il écrive, hein, qu'on va remplacer l'opposition droite-gauche par l'opposition extrémiste modérée, c'est vraiment très frappant parce que c'est précisément ce que disait Emmanuel Macron pendant sa campagne, qui était de dire, en gros, droite-gauche, ça n'a plus de validité. Ce qui compte, c'est l'opposition entre les progressistes et les conservateurs ou les progressistes et les nationalistes. Et en fait, en faisant ça, et on ne sait pas si c'est voulu ou pas, mais il sort de la description pour emprunter le registre du jugement. Parce que, certes, hein, quand la gauche dit il y a la droite et la gauche, on sait que la gauche a tendance à avoir un jugement moral à l'égard de la droite. Mais là, je trouve que c'est encore plus fort, parce que ça signifie quand même que les extrémistes sont les vilains et les modérés sont les gentils, alors que paradoxalement, comme le dit très bien Slama, eh bien, ce sont les modérés qui peuvent être extrêmes.
Non, mais totalement, on est en plein dedans, et c'est sûr que c'est cette dichotomie que Macron avait mis en avant, mais au moment de la présidentielle, voilà, il y a l'opposition entre les progressistes et les réactionnaires. On n'est quand même pas loin du sac de déplorable d'Hillary Clinton.
Les conservateurs. Voilà, je ne sais pas s'il avait dit réactionnaire, mais...
Ah ouais, non, mais de toute façon, c'était sous-entendu. Oui, on en revient les gentils contre les méchants, quoi. Mm-hmm. Et ça, en fait, ça me fait penser en t'écoutant à un livre qui est de la philosophie politique, mais qui est un livre américain qui s'appelle Candidly Inquisitors de Jonathan Roach, qui est sorti à peu près à la même époque que Slama, vers 94-95. Pour le coup, le sujet, c'était aussi très pressant, mais pour d'autres raisons. C'était toutes les attaques bienveillantes contre la science, la liberté d'expression qui commençaient déjà gravement à se faire jour, d'ailleurs, ça c'est une parenthèse, mais ce qu'on vit aujourd'hui avec le wokisme, etc., c'est une sorte de nouvelle jeunesse des culture wars, des guerres de la science et tout, qui était en vigueur dans les années 90. Bref, donc dans ce bouquin, donc Jonathan Roach cite en fait, enfin liste plusieurs principes politiques qui, selon lui, et je trouve ça assez juste, organise à peu près tous les systèmes politiques. Et le premier, il parle du principe fondamentaliste. Et en fait, le principe fondamentaliste, c'est, de mémoire, ceux qui connaissent la vérité sont les seuls à pouvoir décider de qui dit vrai, quoi. Voilà, en gros. Et je trouve que c'est typiquement le genre de tare, en fait, qu'on a vu et qu'on voit encore chez Macron, le côté « je sais et je vous dis ». Je suis surplombant et je vais... Voilà, Et d'ailleurs, ça rejoint les défauts rhétoriques que tu soulignais au tout début, son côté très télévangéliste, son côté ce qu'on a vu après les Gilets jaunes, pareil, le truc qui est parti complètement en capilatade et qu'il a fait le tour de France, qu'il était en bras de chemise, à parler aux gens, et c'était « Ah, c'est fort, il perd pendant 7 heures, il va pas aux toilettes, quel surhomme !» On ne sait pas, il a peut-être une poche. Et, euh, et, et, voilà, ça va très bien avec, je dirais, cet enrobage, quoi. C'est rhétorique, c'est de l'habillage, c'est de la com.
Et c'est de la performance aussi, je dirais.
Voilà, tout à fait, voilà, c'est de la performance. Et malheureusement, ce qui pointe sur la performance, c'est justement ce fondamentalisme qui, comme tu dis, en citant Slama, est souvent généré par un extrême centrisme. C'est vraiment anti-libéral dans le sens, le libéralisme classique, c'est certainement utopique aussi, mais c'est tout le monde parle, tout le monde discute, et la vérité émerge de la confrontation des idées contradictoires. C'est pas du tout un truc top-down comme Macron en bras de chemise dans le gymnase de je ne sais pas quelle ville française de province.
Non, mais c'est surtout que la confrontation pour les libéraux, elle peut être radicale.
Bien sûr, elle peut être vilaine. Quoi.
Certes, on ne négocie pas avec des terroristes, mais hormis ces gens-là, on peut tenter de discuter avec tout le monde. Et ce qui est bizarre dans l'extrême centrisme, c'est qu'il y a cette idée qu'on fait semblant qu'on est tous très amis et qu'on partage tous les mêmes valeurs, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des conflits. Et on rajoute par-dessus une décision surplombante. Donc en fait, c'est autoritaire, mais ça ne reconnaît absolument pas son autoritarisme. En fait, c'est espèce de ça garde une sorte de visage souriant qui est celui de l'expertise. Mais quand on enlève le masque de l'expertise, il y a quand même un chef. Et alors, on peut se demander aussi si le problème n'est pas en grande partie la Ve République. Et peut-être on peut essayer de ne pas rendre Emmanuel Macron totalement responsable de ce qui ne va pas aujourd'hui. Même si j'aimerais bien, mais j'essaie d'avoir un peu de bonne foi. Et
d'objectivité.
Voilà, et on sait bien que c'est un... C'est un système très étrange qui a renforcé la centralisation et l'uniformisation, la verticalité du pouvoir. On le voit très bien, ça s'est progressivement aggravé. Et peut-être qu'on arrive aussi à la fin d'un cycle qui a commencé avec De Gaulle, qui a façonné la fonction présidentielle à son image. Et on peut certes critiquer les débuts de la Ve République, et c'était déjà le cas notamment du grand penseur qui était Jean-François Revel, hein, qui a écrit les pamphlets contre De Gaulle, mais au moins il y avait une sorte d'efficacité de la décision malgré tout. Or aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est qu'on a un peu le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la centralisation, l'autoritarisme, et puis en même temps, quand même, de gros dysfonctionnements, comme on l'a vu au moment de la pandémie. C'est-à-dire que si à la limite, on avait un chef super efficace et qu'on n'avait pas du tout eu les problèmes qu'on a eu et qu'on a toujours pendant la crise sanitaire, on pourrait se dire, on n'aime pas ce régime politiquement, il faut en changer, mais bon... En temps de crise, ça remplit sa mission, mais ça n'est pas le cas. En fait, c'est que paradoxalement, c'est un pouvoir qui reste impuissant et qui est d'autant plus impuissant qu'il se veut fort. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de ces institutions. Et une autre raison, c'est peut-être aussi que aujourd'hui, les citoyens ont envie de prendre une part un peu plus importante à la décision politique. Alors, ils l'expriment de façon peut-être un peu brouillonne ou même un peu violente, hein, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais ça montre bien qu'on est dans une autre époque. Une époque où tout le monde peut tout voir et tout commenter en permanence, mais dans laquelle, en même temps, on continue d'avoir des centres de pouvoir qui sont hyper centralisés et pas du tout transparents, à mon avis, elle montre bien qu'il y a une tension qu'il faut réconcilier.
Oui, complètement, et ça me fait penser à son premier discours, maintenant il y a plus d'un an, au moment du premier confinement, qui était l'anaphore « on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre », le fait est qu'il n'a pas été chef de guerre, quoi.
Non.
Et c'est clair que ça peut que crisper et partir en freestyle, quoi.
Mais pas du tout, mais là aussi, moi j'y vois un effet de sa rhétorique. J'ai l'impression qu'il a saisi l'image, la métaphore, qu'il s'est dit que ça allait faire un bon effet, un peu comme un mauvais acteur, hein, qui... Voilà, et en fait, il n'a pas été à la hauteur de sa propre promesse. Et quand on met la barre tellement haut, c'est-à-dire le plus haut qui soit, hein, pour une nation qui est la guerre, on a intérêt à être au rendez-vous. Je trouve aussi qu'avec son usage de la parole, il suscite la démonétisation de ce qu'il dit. C'est qu'à force d'employer des mots tellement grands, tellement forts, tellement suggestifs, eh bien, il les dévalorise puisqu'il n'est pas à la hauteur. Mais alors, en même temps que nous discutions, j'étais en train de me dire il y a un instant que nous sommes censés parler de La République en marche et qu'en fait, nous n'avons parlé que d'Emmanuel Macron, ce qui, à mon avis, est déjà très révélateur.
Bah oui, c'est très révélateur, parce que déjà, rien que le premier nom de son parti, c'était EM, c'était ses initiales, quoi. Donc, plus césarien, tu fais pas, quoi.
C'est ça, et c'est complètement narcissique. Il n'est pas le seul. Je crois que pendant la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen avait lancé le mouvement Bleu Marine. C'est un petit peu pareil.
Bien sûr, ouais.
Et ça montre peut-être autre chose. Et là encore, Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable. C'est qu'il y a quand même un affaiblissement progressif des grands partis politiques depuis les années 70, à mon avis, où il y avait vraiment un pic d'engagement. Et on voit la dynamique dans tous les pays occidentaux. Quand on regarde l'adhésion au Royaume-Uni ou en Allemagne, alors les États-Unis, c'est un petit peu différent, mais de l'adhésion populaire au parti, donc qui implique en effet de cotiser, d'être présent à des réunions, eh bien cette adhésion n'a cessé de reculer. Donc, et je pense qu'en plus, en France, elle a toujours été plus faible que dans d'autres pays pour des raisons historiques. Et donc, ça pose aussi la question de l'avenir de la politique avec des partis différents. Alors, des partis qui se créent tous les quatre matins, des partis qui sont aussi nombreux que les personnes qui les fondent et qui sont toutes très, très ambitieuses et qui veulent toutes devenir président. Et moi, c'est ça que je trouve un petit peu inquiétant aussi. C'est-à-dire qu'on ne... On n'arrive pas à voir ce que peut être la politique dans un contexte aussi instable.
Bah ça, pour le coup, et je pense que ça fera une bonne transition pour les contrariétés, c'est un peu le symptôme de l'époque un peu hyper narcissique dans laquelle on est, quoi. Alors, ma contrariété de la semaine, c'est l'Evian Gate. Donc, qu'est-ce que l'Evian Gate ? C'est parti d'un tweet donc que la marque Evian, donc l'eau, hein, glouglou, a posté le 13 avril. C'était donc RT, ça veut dire retweet, donc transférer, voilà, partager ce message si vous avez déjà bu un litre aujourd'hui.
Voilà, je me sens fautive, hein, j'ai pas bu mon litre d'eau là.
C'est mal. Et donc quand on regarde un peu le compte Twitter de Evian, c'est vraiment la base de leur message. C'est très très banal. Si tu regardes les jours précédents, même voilà, tu fais une petite enquête sur une ou deux semaines. Un peu avant, il y avait genre Hello Twitter, bon lundi, n'oubliez pas de rester hydraté. Un peu avant, c'était on vous souhaite d'avoir une petite Evian bien fraîche pour vos cours en visio, ça change tout. Ou alors, il y avait carrément il date de quand votre dernier verre d'eau, je vais y arriver. Et le fait est que là, l'Evian Gate a commencé parce que ça a déclenché un véritable bad buzz. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le 13 avril, c'était le début ou le lendemain du début du Ramadan. Et donc là, il y a eu plein de commentaires qui ont accusé la filiale de Danone d'être raciste, islamophobe, blablabla. Pour le coup, dans les trucs, il y a un commentaire qui m'a fait marrer, c'était le community manager d'Evian, et en dessous, il y avait une photo de Jean Messia, donc qui est ex-Rassemblement National, et Éric Zemmour par-dessus, donc ça j'avoue, ça m'a fait marrer. Donc voilà, le bad buzz prend, et à 21h, nouveau tweet d'Evian qui poste « Bonsoir, ici la team Evian, désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. » Et donc là, c'est la deuxième partie du sketch, c'est la convergence des catastrophes, tu vois. Après les indignés du tweet d'Evian, arrivent les indignés des excuses d'Evian au tweet. Donc là, qui appelle au boycott d'Evian, qui parle de soumission, donc... Je retiens un commentaire qui est le cocktail des deux, c'est « Votre soumission est une honte » en majuscule. « Plus jamais un euro pour Evian, hashtag boycott Evian. » Donc voilà, pour faire le lien avec l'époque hyper à la fois hystérique et narcissique, voilà, pour moi, cette histoire est à la fois caractéristique de notre époque et de ce qui me contrarie souvent beaucoup dans cette époque. C'est-à-dire que d'abord, on a des propos qui sont totalement anodins sur les réseaux sociaux, qui sont montés en épingle, justement, voilà, pas des hyper narcissiques et complètement paranoïaques, les deux étant souvent liés. La sauce monte complètement en roue libre. On voit aussi une espèce de virus d'excusite, c'est-à-dire que voilà, les gens et les marques en particulier s'excusent alors qu'ils n'ont rien fait, tu vois. Et je ne sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était Sam Harris, mais en préparant, je n'ai pas réussi à retrouver la source originale. Bref, c'est l'idée que Jack Dorsey, qui est le président, le patron de Twitter, en fait, il devrait fermer le site. Et pour le coup, lui, en présentant de grosses excuses, genre voilà, pardon, j'ai merdé, je ne pensais pas que ça allait prendre de telles proportions. Et là, quand même, en faisant cela, je pense qu'il serait bien parti pour recevoir le prix Nobel de la paix.
Excellent. Très drôle. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. La cascade d'indignation de notre époque. Un argument de plus pour ne pas être sur Twitter. Hein. Peggy, ouais. J'essaie de te convaincre, mais je n'y suis toujours pas parvenue.
Mais non, mais moi, ça va, parce que j'arrive à regarder ça comme un entomologiste.
Tu surveilles, voilà. Tu étudies la nature humaine, ouais. Non, mais en même temps, c'est un bon endroit pour le faire. Alors, ma contrariété, écoute, elle résonne tout à fait avec notre premier sujet, puisqu'elle concerne la dernière idée de Marlène Schiappa, notre ministre déléguée à la citoyenneté, qui veut, ouvrez grand vos oreilles, des QSR. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un QSR, Peggy ?
Eh bien non, je vais te laisser me dire ce que c'est, parce que je donne ma langue au chat.
Eh bien, il ne s'agit pas des QR codes, tu sais, ces codes qui se trouvent sur certains objets qu'on peut scanner, ensuite qui amènent vers un lien sur Internet. Non, un QSR, c'est un quartier sans relou. Oui, vous avez bien entendu, c'est une ministre de la République qui s'exprime de cette façon. Et alors, le mieux, c'est quand on sait ce que ça veut dire. Ce sont des quartiers qui seraient délimités grâce à un baromètre du harcèlement de rue qui permettrait d'élaborer une cartographie des dites zones rouges, c'est-à-dire les zones où il y a le plus de harcèlement, ce qui permettrait non seulement de mesurer l'ampleur du phénomène, mais de faire intervenir la police plus effectivement et peut-être même en amont. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, le harcèlement de rue, eh bien, c'est un nouveau délit. Qui a été inventée par la même Marlène Schiappa quand elle était ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un délit qui concerne un ensemble de comportements qui sont très divers, puisque on peut être coupable de harcèlement de rue si on siffle une femme dans la rue, ou bien si on la suit dans la rue, c'est-à-dire que ça va de la remarque un peu sexiste ou désobligeante, ou même de la marque d'admiration que peut exprimer un homme envers une femme, à la conduite la plus louche qui soit, c'est-à-dire de la suivre. Alors, moi, j'ai toujours trouvé cette mesure assez incompréhensible et je l'ai toujours critiquée. Déjà parce que, comme je l'ai dit, elle regroupe un certain nombre de comportements qui, à mon avis, n'ont rien à voir. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est une mesure qui est assez infantilisante pour tout le monde. Elle est infantilisante pour les femmes parce qu'elle sous-entend qu'aucune femme ne peut répondre par elle-même à un manque de respect. Et puis c'est infantilisant pour le reste de la société, puisque ça signifie qu'en fait on ne s'attend pas du tout à ce que si une femme est embêtée par quelqu'un, les gens qui assistent à cette atteinte, à ce manque de respect, fassent quelque chose. Et c'est quand même ce qu'on aimerait qu'il arrive dans une société qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que quand on voit qu'un de nos concitoyens ou un autre être humain est dans une situation gênante, on lui porte secours. Et ça revient vraiment à ce qu'on disait dans notre discussion tout à l'heure. C'est-à-dire que le césarisme dont nous parlions, c'est aussi cette idée qu'on va tout centraliser, on va tout ramener à l'État et on va finalement priver la société civile des moyens qu'elle a pour vivre dans la concorde. Et je trouve ça assez inquiétant. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais à mon avis, c'est une mesure très, très révélatrice de ce que peut être l'intrusion de l'État et ce que peut être l'intrusion néfaste et délétère de l'État dans la vie quotidienne. Alors, au-delà du harcèlement de rue, qui déjà pour moi est un problème, du délit de harcèlement de rue, il y a donc cette idée de quartier sans relou. Et là, je ne sais même pas par où commencer. D'abord, on continue à vouloir superviser d'en haut ce qui se passe dans la société. Donc, on va avoir ces cartographies avec ces zones rouges. Alors, il y a un côté un petit peu science-fiction et en même temps un petit peu, je trouve, un petit peu inquiétant. Enfin, c'est avec cette idée de surplomber un peu ce qui se passe entre les personnes depuis le haut, depuis l'administration et depuis l'État. Et puis, voilà, la cerise sur le gâteau, le nom qu'elle veut donner à ce projet, le QSR, le quartier sans relou. Je ne sais pas quoi dire, en fait. J'ai parfois l'impression que ce gouvernement et Marlène Schiappa assez souvent est au-delà de la parodie. C'est-à-dire qu'on pourrait même plus parodier ce qu'on voit parce que la réalité est déjà tout à fait ridicule.
Ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est qu'en fait, on retrouve, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, les no-go zones qui avaient beaucoup fait parler de Fox News. Et donc, à l'époque, voilà, je suppose que Marlène Schiappa avait été aussi dans la polémique en disant « Mais regardez ces Américains, ils nous prennent pour des sauvages, comme quoi on a des quartiers impossibles, des no-go zones et tout. » Mais là, voilà, elle refait ces no-go zones. Et le deuxième commentaire que m'inspire... La contrariété, c'est que un des reproches qu'on fait souvent à La République en Marche, et notamment à l'occasion de son anniversaire, c'est qu'il n'a pas su faire émerger de personnalités, etc. De personnalités voilà, nouvelles et tout. Et au contraire, enfin comment dire, Marlène Schiappa, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses par rapport à La République en Marche. Parce que si la personnalité qui émerge le plus de La République en Marche, c'est Marlène Schiappa, qui est, comme tu dis, au-delà...
Au-delà du réel.
Voilà, au-delà du réel et de la parodie, ça fait peur, quoi.
Oui, alors l'autre, c'est Gabriel Attal. Et alors, pareil, c'est-à-dire, ce sont des gens, en fait, à mon avis, ceux qui émergent, ce sont des gens déjà qui sont complètement aux ordres, qui n'existeraient absolument pas politiquement sans le président de la République. Donc on voit très bien que, finalement, non seulement il n'y a pas de parti au sens traditionnel que prend ce terme, mais que ça favorise des personnalités qui sont à la fois serviles et peu créatives.
Tout à fait. Ce sera le mot de la fin.
Ce sera le mot de la fin. Et c'est le moment de passer à la seconde partie de cette émission. Nous accueillons aujourd'hui Éric Brion. Éric Brion, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre Les Contrariantes aujourd'hui. Éric Brion, vous êtes un professionnel des médias et vous êtes connu pour avoir été la première cible, la première victime, si j'ose le terme, du mouvement Balance ton porc, ce MeToo à la française lancé par la journaliste Sandra Muller. En octobre 2017, votre nom était en effet jeté en pâture sur le réseau social Twitter lorsque Sandra Muller écrivait sur la plateforme le message suivant « Balance ton porc, toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. » Message suivi 4 heures plus tard par un second tweet « Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Éric Brion, ex-patron de Equidia, hashtag balance ton porc. » C'est peu dire que cette dénonciation publique vous a porté préjudice. Du jour au lendemain, vous étiez sans travail et sans compagne, incapable de vous défendre et de vous faire entendre, condamné par le buzz selon vos propres termes. Un calvaire que vous avez raconté avec beaucoup de pudeur et de justesse dans votre livre « Balance ton père ». Vous avez finalement porté plainte pour diffamation contre Sandra Muller, qui a été condamnée en première instance en septembre 2019. Cependant, il y a quelques jours, la cour d'appel vient de vous débouter de cette plainte. Si nous vous invitons aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La plus immédiate est que ce jugement est surprenant et qu'il nous semble important et intéressant d'en discuter avec vous. La raison plus fondamentale est que Peggy et moi sommes loin de considérer MeToo et Balance ton porc comme un progrès pour l'humanité et que votre aventure en apporte la preuve éclatante. Si je peux me permettre une note personnelle, je me rappelle très bien ma réaction quand j'ai appris la naissance de ce hashtag. J'étais chez moi, c'était un dimanche matin, je rangeais des choses en écoutant la radio, et puis j'entends parler de « balance ton porc ». Alors je me rappelle m'être assise, absolument consternée. Je me suis d'abord dit qu'il y avait un décalage accablant dans « balance ton porc » entre le ton adopté par Sandra Muller et les faits qu'elle dénonçait. Elle n'était pas en train de dénoncer la prostitution des petites filles en Inde ou l'excision, mais une tentative de drague. Et pourtant, elle prenait la posture d'une grande combattante des libertés. La deuxième chose qui m'a choquée, surprise aussi, c'était sa profonde vulgarité. Elle qui dénonçait la vôtre, elle écrivait en faisant des fautes à tous les mots, en parlant dans un français très approximatif. Alors ça semble peut-être complètement anecdotique, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler de libération quand cette libération se fait dans des termes si peu élégants, si peu généreux, si peu libres en réalité. Nous en revenons à l'éternel principe de toutes les radieuses révolutions. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas de barbecue sans tuer des porcs. Jusqu'au jour où ceux qui font les omelettes deviennent eux-mêmes les œufs de la prochaine omelette. L'histoire nous dira ce qui se passera demain. Alors, pour commencer cette discussion avec vous, pouvez-vous nous expliquer en deux mots les ressorts du jugement de la Cour d'appel ?
C'est un arrêt de la Cour d'appel qui est assez surprenant. Parce qu'au fond, et je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, même si vous imaginez bien que depuis 3 ans et demi, j'ai appris pas mal de choses sur le droit et notamment sur la notion de diffamation. Cet arrêt, il ne m'a pas, au fond, déçu. Parce qu'il reconnaît quoi ? Il reconnaît que je n'ai jamais commis de harcèlement sexuel à caractère professionnel. Et ça, pour moi, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, même Sandra Müller et ses avocats l'ont reconnu. Il n'y a pas eu de harcèlement sexuel à caractère professionnel lors de cette soirée. Donc pour moi, c'est une première chose actée et extrêmement importante. La deuxième chose qui est assez troublante, c'est que la décision dit que oui, en effet, ces propos, enfin ce tweet de Sandra Müller, cette série de tweets, étaient diffamants à mon égard. Mais que, et là on rentre dans des précisions extrêmement qui tiennent exactement de la mécanique juridique, au fond, Sandra Müller était de bonne foi lorsqu'elle a écrit ses tweets. Donc, j'ai été débouté de ma demande en diffamation. Alors, c'est difficile de commenter au fond des décisions de justice parce que quand elles sont favorables, évidemment, on est content, quand elles sont un peu défavorables, on l'est moins. Mais là, en l'occurrence, ce pourquoi je me suis battu depuis 3 ans et demi a quand même été reconnu par la Cour d'appel. En revanche, cette décision, là où elle est beaucoup plus surprenante, c'est qu'elle bafoue complètement la jurisprudence sur la notion de bonne foi. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on s'attaque à quelqu'un, comme l'a fait Sandra Müller il y a 3 ans et demi, en fait, on doit avoir la preuve de ce qu'on dit. On doit bien avoir exactement la preuve, la rapporter et dire qu'on est de bonne foi. Mais là, en l'occurrence, lorsque Sandra Müller s'exprime le 13 octobre 2017, évidemment, elle n'a pas cette preuve. Il n'y a aucun fait, il n'y a aucun écrit, il n'y a rien qui permette de confirmer ce qu'elle dit. Et donc, ça, c'est une jurisprudence séculaire qui a été complètement remise en cause par cet arrêt. Alors, des remises en cause de jurisprudence, il y en a tout le temps. Mais l'impression que j'ai, au fond, et de plus en plus en discutant avec des avocats, c'est que la Cour d'appel avait une idée de ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire de la décision qu'elle voulait rendre, et que cette décision devait être favorable à Sandra Müller, sans doute pour des raisons liées à l'air du temps, et qu'ensuite, elle a cherché comment, au fond, aller dans cette direction. Voilà, c'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Il fallait, après, écrire le droit, dire les choses en fonction de l'objectif qui était de me débouter de ma demande en diffamation.
Alors, votre stratégie était fondée en partie sur le fait d'admettre avoir publiquement avoir tenu ces propos déplacés à l'égard de Sandra Müller. Et d'une certaine façon, les avocats de la défense ont réussi à retourner cette stratégie contre vous. Alors, est-ce que vous regrettez d'avoir admis ces propos déplacés ?
Non, je ne regrette pas. C'est vrai que il n'y avait rien, aucune trace de ces propos, j'aurais pu les nier à 100%. Mais je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Notamment parce que cette vérité, je la dois avant tout à mes deux filles. Juste pour que vous compreniez, le lendemain du tweet publié par Sandra Müller, j'ai eu ma fille aînée au téléphone qui vit outre-Atlantique. Et ma fille aînée m'a demandé une chose simple. Elle m'a dit « Papa, je veux juste que tu dises toujours la vérité. Je venais de lui expliquer ce qui s'était passé précisément, mot à mot, et je rappelle, hein, je conteste avoir dit les paroles qui me sont prêtées telles qu'elles m'ont été prêtées. J'ai reconnu avoir tenu des propos déplacés, je n'ai jamais reconnu les propos tels que Sandra Müller me les prête. Donc j'avais dit à ma fille aînée, oui, je dirai toujours la vérité. Et ça, c'est une chose que j'explique dans mon livre longuement, qui au fond est sacré, c'est que j'ai toujours dit depuis le début la vérité. En revanche, pour les prochaines personnes qui vont se retrouver dans ma situation, cette décision, elle est claire. Il faut nier, absolument nier. À partir du moment où désormais, on pourra utiliser a posteriori une reconnaissance de propos contre une personne et que cela pourra donner le critère de bonne foi à la personne qui écrit ou qui attaque quelqu'un, ben la conclusion de la cour, c'est surtout ne reconnaissez pas. Et ça, c'est un regret pour moi. Parce qu'au fond, ça ne va pas améliorer la résolution des problèmes, des affaires, et ça ne va surtout pas permettre de rapprocher les uns et les autres dans un combat pour éviter une bagarre entre les hommes et les femmes.
Est-ce que vous allez vous pouvoir en cassation ?
Je ne sais pas encore. Déjà, lorsque j'ai décidé d'assigner Sandra Müller, j'ai pris mon temps à l'époque. J'ai gardé l'intégralité du temps auquel j'avais droit, c'est-à-dire 3 mois, pour bien réfléchir, peser le pour et le contre, en discuter avec les miens, avec ma famille, avec évidemment mes parents, qui ont beaucoup souffert de cette affaire. Et puis, au fur et à mesure, pour resserrer la décision autour d'un petit groupe de personnes. Pourquoi ? Parce que, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont proches, qui me veulent du bien et qui me disent « continuez à te battre ». Et puis il y en a d'autres qui me veulent du bien aussi, et je l'explique dans « Balance ton père » dans mon livre, qui me disent « laisse tomber, au fond tu as obtenu ce que tu voulais, il n'y a pas de harcèlement sexuel, les propos étaient diffamatoires, qu'est-ce que tu veux obtenir de plus ?» Donc je me pose la question, honnêtement la tendance aujourd'hui est plutôt à aller en cassation, mais je n'ai pas pris la décision définitive.
Alors, comme le rappellent plusieurs juristes, depuis déjà quelques années, on assiste à une dérive du système judiciaire qui s'éloigne du terrain juridique pour investir celui de la morale, ou de l'air du temps ou de l'opinion publique. Et à ce titre, il me semble que votre affaire est caractéristique. Comment analysez-vous cette évolution ?
Je pense que chaque affaire et chaque cas est assez différent. Évidemment, l'air du temps, il peut souffler dans un sens ou dans un autre. Ce qui m'a gêné dans la décision, c'est cette introduction de la notion de morale dans le droit. Voilà, parce que, au fond, la justice, pour moi, elle doit pas s'inspirer d'un courant majoritaire ou d'une idée qui n'est pas forcément majoritaire, mais dont on entend beaucoup parler. Là, en l'occurrence, c'est la sensation que j'ai, c'est qu'il y a un côté politique dans cette décision. Et qu'au moment où la libération de la parole a pris une place très importante, et je le souligne, j'y suis favorable à la libération de la parole, mais à condition qu'elle soit fondée sur des faits exacts, réels et correspondants à la façon dont on attaque les personnes. Mais là, en l'occurrence, ça aurait été une décision inverse à celle qu'on a eue, aurait été vécue comme un énorme coup d'arrêt. Et ça, je pense que la Cour d'appel ne l'a pas assumé du tout.
En 2017, quand Sandra Müller a posté son tweet, quelles étaient vos relations avec elle ?
Oh, elles étaient inexistantes. On ne s'était pas parlé depuis... Enfin, inexistantes, non, parce que... Pour être précis, on se connaissait depuis une vingtaine d'années. On se tutoyait et on s'est croisé pendant longtemps lors d'événements où la sphère globale des médias pouvait se retrouver. Elle avait relayé des communiqués de presse publiés par Equidia et elle avait fait une interview dans sa publication. Mais il faut comprendre qu'elle est partie vivre aux États-Unis, je ne sais plus quand, en 2014 ou en 2015. Donc, au moment des fêtes, on avait plus du tout de relation puisqu'elle, par définition, elle était très rarement présente en France.
Et est-ce que entre cette soirée à Cannes et son tweet, elle vous avait fait part de ses griefs ?
Elle m'avait écrit un jour un message sur Messenger que j'avais totalement contesté, hein, qui est dans le dossier, où elle m'accusait de dans un tweet tardif, dans un message tardif, de lui avoir mal parlé. Voilà, mais jamais elle m'avait appelé ou parlé de ce sujet ou parlé à des gens dans mon entourage. Donc moi j'ai été très surpris, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, après cette soirée de 2012, j'ai eu une interview dans son journal et jamais ce n'est ressorti d'une manière ou d'une autre comme un grief ou... J'aurais préféré d'ailleurs qu'on puisse en parler directement, qu'on puisse avoir une discussion sur le sujet, plutôt que de découvrir un tweet comme ça, un soir, un vendredi, par hasard.
En fait, dans les lynchages numériques, on voit souvent les victimes qui finissent par s'accuser de choses qu'elles n'ont pas commises. Et d'ailleurs, l'histoire des faux aveux ne remonte évidemment pas aux réseaux sociaux. Mais en fait, vous, non. Vous avez admis avoir tenu des propos effectivement grossiers, mais vous ne vous êtes pas pour autant jamais excusé en fait d'avoir harcelé sexuellement Sandra Müller. Comment est-ce que vous avez fait pour résister à cette pression ?
Moi je n'ai fait que reconnaître ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, ni plus ni moins. Je m'en étais excusé dès le lendemain de cette soirée. Et je me suis réexcusé publiquement dans une tribune au Monde le 30 décembre 2017. Voilà. En expliquant que je considérais que les accusations dont qui étaient contenues dans ce tweet étaient pour moi totalement délirantes. Le problème dans cette affaire, c'est que c'est toujours l'écume qu'on envoie. C'est-à-dire que Vous connaissez bien le sujet, mais la plupart des personnes qui en entendent parler n'en ont qu'une vision assez parcellaire. Il y a encore des gens qui croient que j'étais le patron de Sandra Müller. Il y a encore des gens qui pensent que je lui ai écrit des SMS. Voilà, donc, ce qui est très difficile, c'est la précision, c'est aussi l'exigence journalistique, c'est qui font qu'il y a eu beaucoup de choses fausses dans cette histoire. Parce qu'une fois qu'on rapporte les choses à l'essentiel, à ce qui a été dit et fait, et d'ailleurs c'est reconnu par la Cour d'appel, non, il n'y avait pas de harcèlement sexuel professionnel, et oui, les tweets de Sandra Müller me diffamaient. Voilà. Donc, il a fallu 3 ans et demi pour que, enfin, ces choses-là soient reconnues.
Alors, plus généralement, on ne peut que constater votre résistance et même votre capacité au combat. D'où vous viennent-elles ?
Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu la colère. Je pense que la colère a nourri une partie de ma révolte au début et de mon envie de me battre. Parce qu'au fond, je trouvais que tout ça était quand même très injuste. Hein. Je veux pas faire mon caliméro, mais voilà. Donc après, je pense qu'il y a eu peut-être aussi une force familiale, c'est-à-dire que j'ai fait du mal indirectement. Enfin, j'ai fait du mal. J'ai causé, en tout cas, toute cette histoire a causé beaucoup de douleur aux miens. Et ça, on n'en parle jamais, au fond. Lorsqu'il y a des attaques sur Twitter, on ne voit jamais les dégâts. On n'en parle pas, ça n'intéresse personne. Il y a des gens qui sont suicidés, je le rappelle dans mon livre, après avoir été accusés. à tort ou à raison. Il y a un grand chef japonais qui récemment s'est suicidé après des attaques sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ce qui m'a donné de la force au début, c'est les miens. C'est les gens les plus proches de moi, mes filles, mes parents, ma sœur. Je le dis dans mon livre, ma maman un jour, qui est plutôt une femme nuancée, calme, posée, m'a dit « tu vas quand même pas te laisser faire et je veux que tu te battes ». Là, vous savez, ça m'a beaucoup marqué et je me suis battu pour les miens. Ensuite, je me suis battu parce que il y a eu beaucoup de choses racontées sur moi qui étaient vraiment de l'ordre du caniveau. Parce qu'au fond, et je le dis et je le répète, l'affaire Weinstein, elle est issue d'une enquête journalistique de 6 mois qui a abouti à des révélations sur cet homme qui a été condamné pour multiples viols, agressions sexuelles. Et moi, dans mon affaire, il y a eu quelque chose jeté sur la place publique. Et ensuite, Sandra Müller a essayé de prouver que j'étais un prédateur sexuel, que j'étais un monstre, que je harcelais mes collaboratrices. Et là, il y a eu, elle l'a dit d'ailleurs, j'ai des dizaines de témoignages. Et ça m'a mis vraiment, je me suis dit, mais non, là, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Comme ça, pour justifier quelque chose qu'on a lancé, hein, je rappelle la phrase de Sandra Müller, en 5 minutes, j'ai créé un mouvement mondial. Je m'abstiens de commentaires, mais après il fallait prouver qu'au fond j'étais un sale type. Mais quand vous êtes confronté à ça, vous pouvez pas vous laisser faire, vous pouvez pas laisser passer. J'ai démonté un à un tous ces arguments dans mon dossier. J'ai prouvé que toutes les personnes qui étaient citées par Sandra Müller comme des personnes que j'aurais harcelées, non seulement c'était faux, mais ces personnes ont témoigné pour moi. Et on dit que c'était faux et qu'elles avaient même été, elles, appelées plusieurs fois par Sandra Müller. J'ai porté plainte pour faux témoignage contre une personne qui relatait ces accusations. Donc oui, à un moment, en fait, je ne sais pas si c'est du courage, ça sincèrement je ne m'en aperçois pas, mais je me suis battu, j'ai eu des moments très durs, parce qu'après cette battue, j'ai eu un grand coup de fatigue au printemps 2018, hein, j'ai fait une dépression carabinée, dont je me suis remis doucement, et au fond, j'étais embarqué dans ce combat qui était le mien, mais qui est plus large. Un jour, un ami m'a dit tu te bats aussi pour les autres. Voilà. Je pense que c'est peut-être qu'un jour on reconnaîtra ma bonne foi parce que je me suis battu pour une cause légitime. Je sais pas, c'est très ironique. Et puis la dernière chose, c'est que je trouvais que tout ça manquait de nuances. Et que cette affaire, et on est encore en cours là-dessus quand on voit les réactions à la décision, ben en fait, elle ne calme pas les relations entre les hommes et les femmes. Et c'est mon grand regret. Non. Donc oui, je me bats, et puis parfois il y a des petites piques qui vous donnent envie de vous battre. Il y a des personnes qui se mêlent du débat et qui remettent, comment dire, du charbon dans la locomotive ou de l'huile sur le feu et qui vous donnent, qui vous remettent un coup de pied au derrière pour une réaction pour continuer à se battre. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu des grands moments de découragement et puis j'ai eu beaucoup de soutien, et plus le temps passe, plus l'affaire s'est éclairée. Donc j'ai bien fait de... Je pense que j'ai bien fait de me battre.
Avec MeToo et Balance ton porc, mais bon, l'histoire est vieille, hein. On entend souvent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, qu'il y a forcément dans la masse de la libération de la parole des dégâts collatéraux, mais que le sens de l'histoire est le bon. Et vous, en tant que dégâts collatéral, comment est-ce que vous prenez cette façon de voir les choses ?
Non, mais c'est une expression horrible. Dégâts collatéral. Qu'est-ce que c'est que le dégât collatéral ? Le dégât collatéral, c'est utilisé quand généralement, je ne sais pas, On bombarde un camp quelque part militaire d'ennemis, puis un peu à côté, ah, c'est idiot, mais il y avait une école, il y avait un hôpital, il y avait des gens qui étaient réunis. Et c'est ça, donc ça tient du discours militaire et du discours de la guerre, la notion de dégâts collatéraux. Et puis moi, je suis désolé, je ne me considère pas comme un dégât collatéral. Voilà, c'est une expression. On parlait tout à l'heure des choses qui m'avaient mise en colère. Quand Sandra Müller a écrit ou a dit dans une interview que je n'étais qu'un dégât collatéral, ça m'a reboosté pour 3 mois. Parce que c'est une personne, ce sont des êtres humains. Et ça a été moi, bien sûr, mais ça a été aussi tous les gens autour de moi qui ont souffert. Donc bah, les œufs, hein, comme c'est cette notion de l'omelette sans casser des œufs, c'est Hannah Arendt, les œufs, ils se rebiffent. Hein. Les œufs ne se laissent pas faire. Les coquilles, elles disent non, on ne va pas se laisser marcher dessus. Et on va... l'omelette, non. Ça, voilà. Moi, je ne suis pas un œuf. Et je ne me suis pas laissé marcher dessus. Je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas un héros, hein, je suis désolé, je ne suis pas le seul à pas m'être laissé faire. Mais comme j'étais le premier, mon nom est toujours ressorti. Je vais vous prendre un exemple. C'est une anecdote importante. En septembre 2020, Sandra Müller publie un tweet qui dit « J'en peux plus de la vieille Badinter ». Et sur une radio, sur une télévision, Elisabeth Lévy parle de ce tweet et Elisabeth Lévy, qui m'a toujours défendu d'ailleurs, en fait elle parle du tweet de Sandra Müller sur Madame Badinter, et évidemment à chaque fois, on revient, Elisabeth Lévy dit, vous savez, Sandra Müller, cette femme qui avait accusé Éric Brion. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de balance Pompon, mon nom revient. C'est automatique. Parce que je suis le premier. Il y aurait eu un homme avant moi, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais je suis le premier port, entre guillemets, ou le port zéro, comme je l'entends de temps en temps. C'est super agréable à entendre, hein, le port zéro. Moi qui n'ai même pas posé le petit doigt sur la manche du bras, sur l'avant-bras de Sandra Müller dans cette histoire. Mais tout ça aussi fait que, étant le premier, je reviens toujours dans cette affaire.
Alors en janvier dernier, sur France Culture, vous étiez invité dans l'émission de Marc Weitzman, Signe des temps. Et la féministe Rebecca Amselem vous a dit que parler de votre dépression et de vos envies suicidaires était une forme de chantage. Alors comment avez-vous réussi à garder votre sang-froid ?
Ça ne sert à rien de s'énerver face à des propos provocants comme elle en a eu plusieurs. Elle a aussi considéré que j'aurais mieux fait de consacrer, comme des hommes, alors je ne sais pas lesquels, j'aurais mieux fait de consacrer mon combat, de tout abandonner pour aller dans le sens des femmes et reconnaître et créer une association de défense des femmes. Bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Alors, ce qui est assez drôle pour moi, c'est que Rebecca Amselem, elle a le même âge que ma fille aînée. Dès que ma fille aînée est une féministe très engagée, et d'ailleurs, comme elle vit au Canada, dans un féminisme beaucoup plus revendicatif que celui de la plupart des féministes françaises. Et donc, en fait, moi, ce dialogue, je l'ai avec ma fille aînée. C'est parfois assez rock'n'roll, mais c'est très intéressant d'avoir la vision d'une jeune femme très engagée, qui est ma fille, et donc j'avais un peu l'impression d'avoir un peu ce dialogue. On sent qu'il y a une posture, hein. On sent qu'il y a une... Il faut forcément attaquer, provoquer, essayer de faire réagir. C'est assez facile de rester calme parce que je me suis vite habitué à ces attaques et qu'au fond c'est aussi une façon de ne pas aborder le sujet. toutes les femmes sont solidaires entre elles. Il y a ce concept de sororité qui est beaucoup utilisé. J'imagine ce qu'on dirait si un homme créait le même concept de soutien systématique aux hommes. Moi, ce qui m'a gêné plutôt dans la discussion avec Rebecca Amsalem, c'est qu'il y a une jeune femme très intelligente, vraiment. J'ai pu discuter avec elle après l'émission, et je lui ai d'ailleurs proposé qu'on continue ce dialogue. Ce qui me gêne, c'est vraiment ce... il faut être contre, il faut être en bagarre. Il n'y a aucune place pour le dialogue et aucune place pour la nuance. Et ça, c'est pour moi très décevant, et c'est un énorme regret. C'est qu'à aucun moment, on a créé un espace de discussion, de dialogue entre les hommes et les femmes pour aller vers quelque chose de plus nuancé. Moi, j'ai reçu énormément d'appels, de courriers, de messages d'hommes en colère qui me disaient « il ne faut pas se laisser faire, il faut se battre », me racontant leurs histoires. J'en ai même eu qui étaient complètement désespérés au téléphone et qui étaient prêts à se jeter par la fenêtre. Et j'ai été un peu le réceptacle d'une colère masculine qui m'inquiète beaucoup, parce qu'au fond... c'est bien de libérer la parole, c'est bien de traiter des cas visiblement extrêmement durs pour beaucoup de femmes qui n'ont pas pu être traitées pendant très longtemps, mais c'est autre chose de multiplier des cas comme le mien qui créent de la frustration, qui créent de la colère. Et aujourd'hui, ce jugement, et l'autre, et le premier, et aussi l'affaire Jox, ne règlent pas le problème. Et aujourd'hui, il y a une très forte colère qui monte chez beaucoup d'hommes. Il faut l'écouter. Je pense qu'il faut l'écouter. Et moi, je suis toujours pour un dialogue, une discussion entre les hommes et les femmes sur ces sujets-là, avec des personnes peut-être plus aptes à la discussion et qui sont moins dans la posture et l'opposition systématique aux hommes. Je ne comprends pas cette opposition systématique. Même quand j'en discute avec ma fille, j'ai du mal à le comprendre.
Dans ces histoires, on entend souvent parler de messages qui seraient envoyés aux femmes, à toutes les femmes en fait, qui vivraient toutes les mêmes choses. On l'a vu avec le premier jugement de votre affaire, on a dit que ça avait envoyé un mauvais message aux femmes. À l'inverse, l'arrêt de la cour d'appel aurait été un message d'espoir. Il a même été salué par Marlène Schiappa qui a remercié Muller pour, je cite, « avoir permis aux femmes de s'exprimer ensemble ». Et vous, de votre côté, quel genre de message voudriez-vous faire passer avec votre combat ?
Peut-être une réaction à ce que vous venez de dire. Ah, c'est sûr qu'avec cette décision, normalement, on devrait plus entendre dire que la justice française est machiste et paternaliste. Ça, là-dessus, au moins, c'est un argument de moins pour ce type de discours que j'ai entendu et encore entendu après la première décision, dans laquelle on omettait de préciser que la cour était précise et était présidée, la 17e chambre de la cour, pardon, était présidée par une femme lors de la première décision. Donc voilà, donc on ne peut plus dire que la justice est partiale, toujours pour les hommes. La deuxième chose, j'ai été... on parlait de choses qui aiguillonnent. C'est vrai que le tweet de Marlène Schiappa m'a surpris et déçu, parce que pour deux choses. D'abord parce qu'il y aura peut-être cassation, donc cette histoire n'est pas terminée. Et qu'au fond, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un ministre ou d'une ministre de prendre position dans une affaire. Voilà, je pense que ça m'étonne, et même si son combat depuis le début entraîne une réaction logique, mais surtout, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire que oui, la parole doit se libérer. Mais je pense que oui, elle aurait dû aussi faire en sorte qu'il y ait un espace de dialogue entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, cet espace de dialogue, il n'a pas été créé. Et je pense que pour moi, c'est un énorme regret, il n'est pas trop tard, c'est un énorme regret dans la politique qui a été menée sur le sujet, qu'on n'ait pas cherché à trouver une nuance et un équilibre. Et que Marlène Schiappa n'ait pas fait en sorte que des hommes et des femmes puissent discuter ensemble de ces questions-là. Et ça, au fond, pour moi, ça a vraiment manqué d'équilibre, puisqu'après tout, elle était ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et bien, entre les femmes et les hommes, il y a les femmes, mais il y a aussi les hommes. Après, le message, au fond, là encore, on est dans la posture, donc je suis pas étonné, on ne va pas dans le fond. On ne cherche pas à voir ce qu'il y avait à décortiquer cette décision. Et moi, je pense que ce qu'a écrit la Cour d'appel ne règle pas le problème. Au fond, et c'est peut-être pour ça que j'irai aussi en cassation, c'est qu'elle n'incite pas les hommes à dire la vérité. Enfin, en tout cas, les hommes ou les femmes, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi des femmes qui peuvent être attaquées. Et elle rend les choses assez incompréhensibles quant à la justification de ce que je reprochais à Sandra Müller et de ce que Pierre Joxe, de son côté, reprochait à Alexandra Besson. Donc, l'affaire pour moi n'est pas finie, ça n'éteint pas le sujet. Le bon côté, c'est que oui, la parole peut continuer à se libérer, et ça, je le redis, je suis pour, et c'est important. En revanche, je pense que la diffamation, elle, en a pris un sérieux coup. Reconnaître dans une décision que des propos étaient diffamants mais qu'il n'y avait pas diffamation, que l'accusation était fausse mais qu'il n'y a pas diffamation, je pense qu'on est en train de tuer la diffamation. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Parce que demain, au fond, tout le monde peut être attaqué, et même si vous n'avez pas la preuve, au moment où vous attaquez quelqu'un, des faits, ce que dit la Cour, c'est que si un an, deux ans, trois ans plus tard, vous pouvez rapporter la preuve qu'en fait ça a bien existé, ça tue la diffamation. Et bien ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Oui, à la liberté d'expression, mais la diffamation doit avoir un sens. Et vous le savez bien dans la presse, puisque la diffamation existe surtout et beaucoup dans la presse. Et que Sandra Müller, elle était aussi jugée en tant que journaliste. Et c'est pour ça que pour moi le message sur le droit de se défendre, la diffamation est extrêmement négatif, et c'est une petite révolution dans le droit français qui demande vraiment à ce que je prenne aussi moi des pincettes lorsque je vais éventuellement en cassation, parce que si la décision n'était pas cassée, ça confirmerait encore plus la mort douce de la diffamation.
Éric Brion, merci. Et bien pour conclure cet entretien, en le préparant, je suis tombée sur cette citation de François Mitterrand qui a l'air d'avoir été formulée pour votre affaire. Donc je vous la livre. Une cause juste n'a pas besoin de recourir à l'injustice pour vaincre, mais une cause juste n'a pas non plus besoin pour vaincre de mobiliser les sceaux.
C'est une expression qui a été reprise par Marie Burguburu, mon avocate, et que je trouve, oui, parfaite. Et c'est bien le problème dans cette affaire, au-delà de mon cas.
En tout cas, Éric Brion, merci beaucoup d'avoir rejoint les Contrariantes. Hein, c'était vraiment passionnant de vous écouter et d'écouter surtout votre précision aussi, je trouve, et votre... la façon dont vous pesez les choses, et c'est assez rassurant aussi dans des temps où on juge si vite les gens, où on en vient en effet à considérer qu'ils sont des dommages collatéraux et qu'ils ne sont plus des êtres humains. Voilà, merci encore.
Merci de m'avoir donné la parole, j'y suis très sensible et je suis précis aussi parce que vous connaissez l'adage, hein, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous.
Certes, et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.